Bazuca.
Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Panique, l'émission Djiboutique. Voilà, eh bien, on est avec vous pour une heure, avec, on a une invitée. Hubert est à la technique, bonsoir Hubert. Voilà.
Bonsoir, bonsoir.
Et on va vous parler de quoi ? Eh bien d'un festival qui a lieu ce week-end. Assez gros quand même, festival, ça dure 3 jours. Donc ça commence vendredi, ça se termine dimanche. Ça s'appelle le Festival de la Solidarité Internationale et qui a pour thème cette année le folklore comme forme de résistance. Voilà, c'est organisé à Anderlecht par la commune Anderlecht, la cellule Solidarité Internationale de la commune d'Anderlecht. Bonjour, bonsoir Agnès.
Bonsoir.
Et bienvenue à Radio Panique. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu viens dans ces studios, oui.
Première fois à Radio Panique, exactement.
Parfait. Ben bienvenue en tout cas. J'espère que tu te sens à l'aise, contente d'être là.
Super contente.
Excellent. Et alors, donc on va parler de ce festival. Alors bon, je vais développer un petit peu, je vais faire la mise en scène devant le public, on va dire. Et puis bon, ben on te questionnera plus particulièrement par rapport à l'événement que tu organises. Tu l'organises, je pense. Enfin, c'est une partie de tout cet événement est organisée par toi. Donc,
Effectivement. On a décidé au Musée de la Résistance de Belgique de rejoindre en fait ce collectif pour participer à cette édition qui est sur le folklore comme forme de résistance. Et ça avait beaucoup d'écho en fait pour nous. Et donc on a décidé de parler un petit peu de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre du folklore, dans le cadre de l'ethnologie.
Ok, super. Mais comme tu le dis, hein, merci pour ton aide. C'est vrai que c'est un peu un collectif. Hein. Alors cette cellule Solidarité Internationale, on en parle parce que la principale intéressée, n'a pas pu venir. Vous comprenez bien qu'organiser un festival comme ça, ça demande du temps et on n'a pas toujours à l'aise pour faire à la fois la communication. Donc voilà, Anaïs n'est pas avec nous ce soir, mais voilà, on la salue si elle est à l'écoute et on lui souhaite tout le meilleur évidemment pour la réalisation de ce festival, qui est donc, comme Agnès l'a dit, c'est organisé par un collectif, puisque cette cellule Solidarité Internationale, de quoi s'occupe-t-elle ? Eh bien, elle travaille à Anderlecht, et elle est en charge notamment de certains jumelages, donc des parties de la commune d'Anderlecht, donc une commune de Bruxelles, et des petites villes dans d'autres pays, comme par exemple le Sénégal. Et il y a aussi un autre projet parallèle, c'est la Maison des Voyageurs, qui met régulièrement à l'honneur différents pays, et ils ont mis à l'honneur en mars dernier, ou quelque chose comme ça, si je ne m'abuse, le Sénégal. Et c'est pas un hasard, puisque ça reflète des liens qui ont été tissés, et qui existent, et donc voilà, c'est vraiment pas un hasard qu'on trouve des événements focus sur certains pays, et peut-être pas d'autres, on peut pas faire tous les pays non plus, mais donc voilà comment travaille cette cellule. Il y a des partenariats, et donc il y a aussi un lien de cette cellule avec différents groupes De gens dont la commune qui viennent, qui sont originaires de tel ou tel pays et qui sont en Belgique depuis un moment et qui aimeraient peut-être essayer de retisser des liens d'une certaine façon avec leur pays via des institutions belges. Pourquoi pas, d'ailleurs, cette cellule Solidarité Internationale à Anderlecht, ils ont un petit budget et donc chaque année, ils financent des projets. Des petits projets de partenariat comme ça entre des Belges ou des gens d'origine d'un autre pays qui vivent en Belgique et comme ça qui peuvent un peu recréer ou continuer à entretenir le lien avec leur pays. Alors je donne ça comme exemple, mais par exemple la première journée d'ouverture, donc le vendredi, il y aura donc notamment un discours de l'échevin à 17h30. Alors ça se passera à la salle de Rink, c'est place de la Vaillance à Anderlecht. Et puis une rencontre débat où on va développer donc le thème dont j'ai déjà mentionné, le folklore comme forme de résistance. Alors c'est vrai que là, Agnès a précisé, nous, voilà, ça nous a intéressé, voilà, on comprend comment vous l'avez interprété, donc la résistance pendant la guerre, mais ici, le mot est assez général, le folklore comme forme de résistance, comment est-ce que des traditions peuvent aider à un peuple, des gens d'une petite ville, d'un village, à peut-être se maintenir ensemble et à résister contre la modernité, contre différentes choses qui font que ces traditions sont on passe de disparaître. Donc, on aura au cours de la présentation du soir donc différents axes. Alors, sur le Mexique, c'est moi qui interviendrai et je vous parlerai notamment de comment la figure du jaguar s'est maintenue au Mexique, puisque c'est quelque chose qui était déjà très important pour les peuples préhispaniques, les Mayas, les Aztèques. Et parce que le jaguar est un animal mythologique comme ça qui fait peur, qui représente la mort quelque part, mais la mort pour ces peuples-là, c'est pas dramatique non plus, c'est puisque eux ils vivent dans un temps cyclique, donc voilà, ça fait partie un petit peu de la nature des choses, de la dynamique de la vie. Et donc le jaguar finalement s'est maintenu dans des fêtes folkloriques, on représente beaucoup le jaguar parce que c'est un animal très important pour les peuples préhispaniques. Alors il y aura aussi Jean-Jacques De Guenne qu'on a déjà reçu à la radio qui parlera lui du folklore bruxellois et notamment de l'usage du Bruxelles Vlaams et du Beulemans comme il l'appelle à Bruxelles. Et comment c'est quand même une particularité culturelle qui nous est propre ici à Bruxelles. Et puis on aura un intervenant qui nous parlera du Cachemire. Cachemire aussi, où c'est une région d'Inde où il y a aussi des tensions et où des minorités essayent de faire reconnaître leurs droits pour pouvoir maintenir leur culture. Donc brièvement, j'ai résumé la première partie de cette soirée. Cette soirée se clôturera avec une danse qui est en fait inspirée d'un mouvement. Alors, je ne peux pas vous en dire beaucoup sur ce mouvement, mais on l'a appelé le Zouglou. C'est un mouvement qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, qui était notamment porté par les jeunes, je pense, et qui a dérivé, dont certains groupes se sont inspirés de ce mouvement pour transmettre un peu ça à travers la musique, à travers la danse. Et parmi ces groupes qu'on cite, il y en a un qui est très connu, qui a un peu cartonné quand même, on va le dire, au niveau international. En France, ils ont été promus, je ne sais pas si c'est par un label français ou par une radio. En tout cas, ils ont eu un soutien assez massif à une époque. C'était déjà il y a une dizaine d'années. Je ne sais pas si toi tu connais, toi, Agnès, Magic System.
Ah oui, quand même. Oui.
Quand même oui. Ouais, tu confirmes
oui.
Ah d'accord, ah ouais, super. Alors toi, tu t'es écouté ça où
Ça s'écoutait un peu partout quand même. Hein.
Ouais. Ouais. En tout cas, en France, je pense, sûrement. Bon, en Belgique, peut-être un petit peu moins, mais...
Ça s'écoutait aussi dans les cours de récréation, je crois.
Ah bon, mais comment tu sais ça? T'étais pas à l'école à l'époque, quand même.
Des enfants.
Ouais, tu allais voir, tu allais chercher tes enfants.
Ouais.
Ok.
Et non, alors, c'était très populaire.
Il te disait « Non, maman, je suis en train de danser, j'arrive. Voilà. » Et c'était Gaou qui écoutait.
Voilà.
Ouais. Tu confirmes donc que c'était populaire. Allez, on va s'écouter un petit Gaou alors.
Super.
Allez, c'est parti.
Orient tout a changé de côté oh. Maripana elle a changé de côté oh. Je savais chanter un peu haut. J'ai fait ma cassette haut. On me voit à la télé haut. Matin, midi, soir, c'est moi, je chante à la radio. En tout, à Israël, tu le cas où à percer haut. Attends, je vais partir le couper haut. Mais on dit premier Gaou n'est pas Gaou. C'est deuxième Gaou qui est Nyata haut. Deuxième Gaou qui est Nyatao. Tu marches matin et coco, on frappe à ma porte. À ma grande surprise, oh, c'est la Gohan, tout je vois. Oh. Assemblage, j'ai dit, oh, y'a longtemps, c'est plus revu. Oh. Elle veut me mentir, oh, elle dit, chérie, j'avais voyagé. Oh. Je suis de retour, oh, je t'appartiens. Oh. Prends-moi cadeau. Les dix les brésés oh. T'as on te dit premier Gaou n'est pas Gaou oh. C'est deuxième Gaou qui est Nyatao. J'ai dit chéri coco et le poulet tu veux manger oh. Tu es trop petit oh. Ça fait pas te rassasier oh. C'est Kaïma brésé oh. Je vais te donner oh. Et genou d'éléphant oh. Tu vas manger oh. Nangere nangere wa.
Voilà, voilà, on est en train de danser ici comme des petits fous dans les studios avec Agnès, hein, parce qu'évidemment, bah nous, ça nous a, voilà, ça nous faisait bouger cette musique-là, même si c'est un petit peu plus les enfants, hein, les jeunes, c'est vrai, mais quand même, il y avait un petit quelque chose là qui nous plaisait bien dans tout ça. Alors, de quoi on vous parle ? On vous parle de ce festival, de la Solidarité Internationale qui aura lieu à Anderlecht, et dont, eh bien, au cours de l'inauguration, dont je vous ai déjà dit un mot, eh bien, cette inauguration, eh bien, il y aura notamment, après les quelques présentations sur le folklore comme forme de résistance, on aura une présentation d'un spectacle de danse, avec aussi bah, un petit débat après, et qui s'intitule ce spectacle Zouglou, et c'est présenté par Bogarts ASBL. Donc ça a lieu, ça, entre 19h15 et 20h45. c'est quand même un spectacle assez long quand même qui voilà, qui sans doute pourra interpeller le public et après lequel il y aura un débat. Alors il y a aussi un drink dans le cadre de cette soirée puisque c'est la soirée d'inauguration. Bon, c'est quand même un peu on va pas dire en grande pompe parce que ce serait peut-être un peu exagéré, mais en petite pompe quand même, je pense qu'on on pourrait le dire, hein. Alors Agnès, elle interviendra un petit peu plus tard, pas le vendredi, mais ni le samedi, mais le dimanche, ok. Alors Agnès, peut-être tu peux nous dire un petit mot alors sur très brièvement, hein, qu'est-ce que vous allez présenter vous et qui est l'intervenant que vous avez à cet événement. Et puis tu nous dis un petit mot d'introduction sur votre cercle. C'est cercle ou c'est le, comment est-ce qu'on l'appelle?
Alors en fait c'est le musée de la résistance.
Le musée, ok. C'est musée de la résistance.
Voilà, tout à fait. Mm-hmm. Donc comme j'ai dit, on avait vraiment envie de participer à ce festival parce que ça fait 2 ans que on rejoint un petit peu le cercle Solidarité Internationale parce que on est dans une situation. Alors, je vais peut-être juste dire un mot là-dessus. On est dans une situation. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Il est fermé depuis 2018. C'était un musée associatif qui a été fondé en 1972 par d'anciens résistants et qui était un petit musée, donc à Anderlecht, à côté de l'hôtel communal. Et il fallait qu'il se réinvente, ce musée. Et donc, on a choisi d'actualiser un petit peu le message de la résistance, donc de toujours travailler sur la résistance historique, c'est-à-dire durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de réfléchir à qu'est-ce que ça voulait dire la résistance aujourd'hui. Et c'est pour ça, c'est à ce titre-là qu'on a rejoint Solidarité Internationale pour tisser des liens avec d'autres associations d'Anderlecht qui travaillent plus sur des problématiques d'aujourd'hui, des problématiques contemporaines. Et donc, quand on nous a proposé cette thématique de folklore et résistance, ça nous a renvoyé à notre champ d'origine, thème d'origine qui est la résistance de la Seconde Guerre mondiale. Et on a cherché à voir qui est-ce qui pourrait faire une petite conférence là-dessus pour expliquer comment est-ce que le folklore avait pu être utilisé durant la Seconde Guerre mondiale comme résistance, pour expliquer la résistance. Et on a eu la chance de tomber sur Laurent Dubuisson, qui est le directeur de la Maison des Géants de Hattes, qui nous a proposé vraiment un thème super intéressant, très très peu connu, et vraiment avec des documents complètement inconnus, en tout cas dans notre milieu, vraiment les gens étaient super intéressés sur comment est-ce qu'on avait continué en fait à faire la Ducasse, à montrer les géants, alors que c'était complètement interdit par les Allemands à partir de 1940, à partir de l'occupation allemande. Les Allemands ont complètement interdit toute forme de folklore et de manifestation folklorique. Et en fait, les Belges, et notamment à Hattes, ils avaient envie de continuer à montrer leurs géants, à sortir pour les fêtes. Ils ont continué à le faire autant qu'ils pouvaient, quoi, de façon plus discrète, bien sûr. Et donc, c'est là-dessus que Laurent Dubuisson va parler un petit peu durant cette conférence dimanche après-midi à 16h.
Évidemment, ça nous interpelle ce genre d'histoire, parce que on a pas mal développé ici dans le cadre de cette émission, notamment au niveau de l'Amérique latine, comment différentes populations, notamment ceux d'origine africaine, ils sont arrivés à maintenir leur culture aussi malgré la domination coloniale espagnole qui a tout fait. Enfin, ça dépend un petit peu des pays. Il y a des endroits où elle a vraiment réprimé toute forme de manifestation, et d'autres où elle les a tolérés, et même dans le cadre où elle les réprimait dans un premier temps, comme au Brésil, l'histoire du carnaval et tout ça, finalement elle décidait de dire bon allez, seulement dans le carnaval, hein. On est d'accord, mais seulement dans le carnaval, et il faut quand même que ce soit présentable, enfin des trucs comme ça, quoi. Donc c'est intéressant le rapport à l'autorité aux gens qui gouvernent, qui ont pris le pouvoir, quel est le rapport de ces petits groupes folkloriques et comment est-ce qu'ils arrivent à continuer, quoi, comme tu dis. Donc là, c'est intéressant parce qu'on fait le lien assez facilement entre notre cas à nous dans le passé et ce qui se passe, ce qui a pu se passer dans d'autres endroits aussi.
Tout à fait. Nous, c'est vraiment cet aspect qui nous a beaucoup intéressés aussi, c'est de parler de tout le monde, des gens, disons pas seulement des héros de la résistance, mais vraiment des petits actes qui pouvaient avoir une dimension de résistance. Et ça peut être aussi dans quelque chose de festif, dans quelque chose de joyeux. Et c'est aussi une particularité de la résistance belge, d'ailleurs, ce côté un peu irrévérencieux, burlesque.
Ouais.
Donc ça correspond aussi bien à l'esprit du folklore et de la fête.
C'est vrai qu'on en a parlé et puis j'ai croisé aussi Josk Malbé qui était venu ici pour parler du Bruxelles Vlaams, et la première chose qu'il m'a dit quand j'ai parlé de ce thème résistance et folklore: ah oui, tu veux parler du soir, du faux soir qui avait été fait à l'époque et que les Belges donc ont fait. Et il y avait un faux soir à l'époque de ce contrôle sous l'occupation, hein, comme on appelle ça.
Oui, alors tout à fait.
Agnès, c'est aussi un thème qui t'a interpellé, j'ai l'impression.
Oui. Alors en fait, le faux soir, c'est vraiment un des plus grands faits, on va dire, actions de la résistance belge. Alors complètement non violent, hein, pour le coup, c'est vraiment un tour de force, parce que c'est le soir, pour replacer un petit peu le contexte, le journal Le Soir était alors aux mains des Allemands, c'est-à-dire que les Allemands contrôlaient ce qui était écrit chaque jour dans Le Soir, et il y avait une presse clandestine qui était faite par les résistants. Et les résistants, ils ont eu l'idée, pour fêter le 11 novembre 1943, donc c'est-à-dire le 25e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, ils ont eu l'idée de faire un faux soir, c'est-à-dire de faire un soir, un journal Le Soir, qui était complètement satirique, qui se moquait des Allemands, et de le distribuer à la place du vrai soir. C'est ça qui a été vraiment le tour de force, parce que c'était plus un journal clandestin, ça a été distribué à la place du vrai soir, du vrai numéro du soir, qu'on a retiré en fait des aubettes de la distribution, et on a remplacé, la résistance a remplacé par ce faux soir, et donc tous les gens qui allaient acheter le journal du soir, ils se sont retrouvés avec un journal qui se moquait complètement d'Hitler et des Allemands.
Donc ils n'en croyaient pas leurs yeux, quoi.
Exactement.
Ils disaient, mais c'est quoi ce truc, non ?
Ça a eu vraiment un effet énorme. C'est 50 000 exemplaires, donc c'est vraiment massif, hein, comme distribution. Et évidemment, derrière, il y a eu une répression très, très sévère. Donc l'acte était complètement non violent et presque c'était pour rire, quoi, quasiment des Allemands, mais ça a eu des conséquences vraiment terribles.
Ça me fait penser à une petite anecdote, hein, puisqu'on est en train d'essayer de créer des ponts, et peut-être tu pourras nous en dire plus, toi, par rapport à ces combats de résistance aujourd'hui donc que tu as pu rencontrer ou avec lesquels vous vous êtes connecté à Anderlecht, hein. Ça nous intéresse, si tu peux développer ça après, évidemment, avec plaisir. Mais pour faire une comparaison, moi qui ai vécu au Chiapas, au Mexique, il y a eu un phénomène aussi un peu dans le même genre. En fait, donc les Espagnols ont imposé les saints au Mexique, hein, donc voilà, les gens révéraient les saints, les indigènes ont dû s'adapter, non, maintenant ce sera Saint-Pierre, ce sera Saint-Barthélemy, Saint-Stanislas, ok, bon d'accord, ils prient Saint-Stanislas et tout. Et puis à un moment, il y a une espèce de rébellion comme ça qui a commencé à s'organiser dans différents villages indigènes, et puis il y a quelqu'un qui a fait apparaître un nouveau saint, et qui a fait parler ce saint. Et le saint disait, maintenant il faut changer un petit peu votre manière de prier et de vous habiller pour, je ne sais plus exactement c'était quoi, mais ça faisait partie d'un rituel. Mais donc c'était un saint qui était manipulé par un indigène, qui délivrait un message comme quoi, c'était bien de continuer avec le catholicisme, mais il fallait peut-être adapter certaines choses, quoi. Et donc les Indiens sont allés voir les conquistadores, les chefs espagnols, et leur ont dit: regardez, la Virgen de la Caridad nos dijo que, donc la Vierge a parlé, elle dit que faudrait un petit peu adapter et tout ça, parce que là, comme on le fait, c'est trop éloigné de nos coutumes à nous, nos coutumes indigènes, hein. Et les Espagnols, ils sont rentrés dedans, ils n'ont rien toléré du tout, et ils ont massacré tout le monde, quoi. Donc voilà, moi je pense que la comparaison est tout à fait valable, parce que c'est un petit peu le même genre de situation, un occupant et des cultures qui résistent, qui s'opposent de différentes manières. Ici c'est par l'humour, ben, les Indiens c'était pas, même pas vraiment de l'humour, c'était la sincérité, mais voilà, ça n'a pas été accepté. Donc voilà, on a parlé de la Ducasse, je pense qu'on a un petit morceau éventuellement à écouter. Bon, la Ducasse, c'est un événement assez important quand même en Belgique. Je ne sais pas s'ils sont reconnus au niveau du patrimoine de l'UNESCO.
Oui, patrimoine immatériel. Hein.
Patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc c'est quand même un de nos gros événements. Et bon, bah, on trouve des extraits hein, sur ces grosses chaînes dont je ne dirai pas le nom. Mais ce qui m'a frappé, moi, en écoutant, c'est la présence des tambours. Et puis les uniformes aussi. Hein. Alors bon, on est quand même dans le sud de la Belgique. Moi, ça m'a fait penser, hein, dans ce coin-là, il y a aussi les marches napoléoniennes qui sont reconnues au niveau patrimoine de l'humanité. Donc voilà, ça me fait penser à ça, quoi, les marches napoléoniennes. Les habits, les tambours, tout ça.
Il y a plein, je crois que là, alors moi je ne suis pas spécialiste du tout de la Ducasse, mais je crois qu'il y a vraiment un faisceau de traditions qui se mélangent, d'origines. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est que c'est une tradition qui évolue et donc qui s'adapte aussi aux nouvelles, à ce qu'on en attend d'aujourd'hui, de la nouvelle forme de faire la fête et de se retrouver tous ensemble, parce que c'est quand même avant tout ça le folklore. Et c'est aussi pour ça que en 1940 les Allemands l'ont interdit, c'est parce que c'était une forme de réunion, de défense de sa culture, de ses particularités, et ça correspondait pas évidemment à ce qui était attendu par Hitler et son programme.
Oui, puis il y a aussi une grosse envie et une manière de faire la fête aussi là-dedans, parce que bon, quand on écoute les mélodies, en fait, moi j'ai reconnu des trucs, hein, ça me rappelle mon baptême à l'université, parce que je l'ai fait, bon. Et alors, ou d'autres chansons un petit peu dans le genre, hein, chansons paillardes, hein, comme on les appelle, chansons de fête, de guindaille, hein, et parmi les quelques-unes qu'on entend ici avec la Ducasse, ben, y a le fameux, avec le refrain, ce soir on vous met, qui a été repris même pendant les matchs de foot, non ? Mais à la base, ça vient pas du foot, je crois. Ce soir, on vous met le feu. Non ?
Le feu, c'est Johnny. Hein.
Ah, ça, c'est Johnny. Bon, ben, ça vient de Johnny, mais... Merci, Hubert. Quelle culture.
Ah ben, tu vois.
Mais voilà. Mais donc, il y a des chansons comme ça qui sont adaptées, reprises par le folklore, hein, comme tu dis. Voilà, c'est des chansons, finalement, qui deviennent un peu populaires et qui sont chantées dans les fêtes, quoi.
Oui.
Hello, le soleil brille. Tu vois, c'est ça l'adaptation en français, hein, je crois. C'est comme ça qu'on l'a adapté. Mais l'air qu'on entendait avant, hein, pas le dernier, celui juste avant, bah, c'est la chanson du pont de la rivière Kouaï.
Incroyable.
Hein ? Ouais. Et donc, il y a vraiment de tout qui passe dans cette Ducasse, hein, et notamment des chants un peu de résistance quand même. Le pont de la rivière Kouaï, c'est de la résistance.
On peut le voir comme ça, ouais.
Bon, je me souviens plus très bien de l'histoire, mais moi je le vois comme ça en tout cas. Non, c'est... Oui. Alors je sais plus c'est dans quelle guerre, mais
Moi non plus.
C'est là, plutôt, c'est plutôt vers l'Indochine, j'ai l'impression, hein.
Je sais pas trop, hein, en fait. Hein,
non.
Pour dire la vérité, je sais pas trop.
Tu ne sais plus.
Je ne sais plus du tout où était le pont de la rivière Kouaï.
Non. Et c'est une historienne qui nous dit ça, mais enfin. Mais enfin, Agnès. Alors. on va un petit peu se ressaisir, hein, parce que c'est vrai que c'est bien beau toutes ces fêtes et tout ça, hein, mais bon, on n'a rien bu, donc je crois qu'on est capable de tenir un discours
cohérent,
hein, toujours, même si on vient de nous balancer Johnny, hein, là. Mais bon. Donc voilà, de quoi parlons-nous ? Bah, de ce que vous êtes en train d'organiser, le Musée de la Résistance, donc, qui est un petit groupe qui fonctionne en lien avec la commune d'Anderlecht. Le musée est en restauration actuellement, mais il profite donc de cet événement intitulé Festival de la Solidarité Internationale pour organiser donc, bah, un petit événement, hein, dans le cadre de ce festival. Ce sera donc dimanche à 16h à Anderlecht, à l'espace César, et de 16h à 18h. Donc ça durera 2h. Donc vous allez faire la présentation avec le monsieur que tu as cité pour la Ducasse. Et en fait, bon, on va peut-être développer un tout petit peu plus cette histoire de lien donc entre la Ducasse, le folklore belge, et le film que vous allez présenter, qui est un film sur un résistant français. Mais qui voilà, a eu quand même un impact quelque part par sa vie, a eu un impact important en France. Et donc finalement, ça pourrait être intéressant de faire se rencontrer ces histoires belges, françaises.
Tout à fait. En fait, pourquoi est-ce qu'on a eu l'idée de proposer ce film sur un résistant français ? Parce que c'est un ethnologue. C'est un film documentaire sur Boris Vildé. Alors Boris Vildé, c'est vraiment un parcours très très exceptionnel, parce que Il est russe de naissance. Après, il a acquis la nationalité estonienne. Après, il est arrivé en Allemagne. Et après, en 1933, il a débarqué en France. Et c'était vraiment quelqu'un avec un brillant, enfin intellectuellement brillant, qui avait aussi des qualités de poète, qui était une sorte d'aventurier un peu romantique. Et il a été repéré très très rapidement par Paul Rivet, qui était en train d'organiser le Musée de l'Homme à l'époque, le Musée de l'Homme qui ouvrira en 1938. Et donc Boris Vildé, il est devenu ethnologue, et c'est devenu un des premiers ethnologues français. Et donc un ethnologue, qu'est-ce que ça fait ? Ben, ça étudie le folklore, et il est parti notamment en Sibérie pour le Musée de l'Homme avec un autre de ses collègues, Anatole Levitsky, qui sera aussi un résistant, pour étudier le folklore sibérien. Il est revenu avec plein d'histoires, des photos, des objets, des récits, et puis il devait faire une exposition sur ce folklore sibérien, mais l'Allemagne a envahi la Belgique puis la France. Lui a d'abord été mobilisé dans l'armée, et puis quand il y a eu la démobilisation, il a rejoint Paris, il s'est évadé, il a rejoint Paris, et il s'est immédiatement engagé dans la résistance, et c'est finalement un des premiers résistants français. C'est le fondateur d'un des premiers réseaux de résistance française, qu'on appelle le réseau du Musée de l'Homme, parce que justement il a fédéré autour de lui des ethnologues, des spécialistes du folklore. Alors c'est vraiment pour ça qu'on voulait mettre le focus sur ce monsieur. Et aussi parce que le réseau du Musée de l'Homme, ça a été donc un des premiers réseaux qui a publié un petit journal. Enfin, ça faisait un recto verso, hein, comme souvent à l'époque, comme beaucoup des premiers réseaux arrêtés. Et 10 des personnes du réseau ont été condamnées à mort. Et lui, Boris Vildé, a été exécuté en février 1942. Donc, ça fait, que je dise pas n'importe quoi, 90 ans, 80 ans, ça y est, je l'ai dit, 80 ans que Boris Vildé a été fusillé, justement, pour avoir été résistant. Pas pour avoir été ethnologue, mais ça participait de son identité de résistant. Donc on voit bien comment finalement cette attention au folklore, c'est aussi une attention à la culture, et c'est aussi une attention à la résistance qui s'exprime par l'exemple même de Boris Vildé. Alors pour parler de lui, eh bien on va présenter un documentaire qui est déjà ancien, qui date de 1967, mais c'est un documentaire qui a jamais été montré en Belgique ni d'ailleurs en France parce que il n'avait pas été sous-titré. Il était en russe et il n'avait pas été sous-titré. Et là, évidemment, on le présente avec des sous-titres français. Et donc, on va pouvoir découvrir ces images qui datent de 67 où on voit quelques images d'archives donc qui datent de la guerre, mais aussi des témoignages de proches de Boris Vildé, notamment sa femme, mais aussi des quelques grands résistants qui sont revenus des camps et qui sont là pour témoigner. Et donc, c'est vraiment une pièce assez exceptionnelle et ça permet de repenser à ce parcours qui est vraiment un beau parcours. Alors, j'en profite pour dire qu'il y a une très, très belle, un très beau roman graphique. J'allais dire bande dessinée, mais c'est un roman graphique qui a été publié il y a quelques mois sur le réseau du Musée de l'Homme, qui s'appelle « Des vivants », qui a été dessiné par Simon Roussin, et le scénario, c'est Louise Moati, aux éditions 2024. Et alors, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce réseau du Musée de l'Homme, c'est vraiment un travail très, 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 très joli à la fois, et puis touchant, pour pouvoir rentrer dans cette histoire un peu dramatique, enfin clairement dramatique.
Ok, bah écoute, si t'as des liens à nous passer, on mettra ça sur notre site quand on uploadera l'émission. On mettra donc ces liens, et puis c'est vrai, pourquoi pas, hein, essayer d'intéresser les gens, nos auditeurs, à toute cette histoire, et puis via des images, évidemment, c'est d'autant mieux. Et voilà, alors, tu nous parles donc de ce Boris Vildé. Et toi-même, tu m'as dit, je crois que tu faisais des recherches sur... Enfin, que tu avais commencé, en fait, en tant qu'historienne, parmi tes recherches, tu t'étais intéressée à quelqu'un qui a écrit aussi beaucoup, ou qui était le même historienne, je crois, qui était russe, d'après ce que j'avais compris.
Oui. Moi, j'ai travaillé sur une historienne russe qui s'appelle Raïssa Bloch. Bloch, et qui en fait est née à Saint-Pétersbourg, qui a vécu elle aussi à Berlin, et qui en fait a rencontré Boris Vildé à Berlin quand ils étaient tous les deux sur des chemins complètement différents au début des années 30, un Berlin qui était vraiment très cosmopolite, très culturellement stimulant. Et Raïssa Bloch, elle avait créé le cercle des poètes, des jeunes poètes russes, et donc c'est à ce titre que Boris Vildé, qui errait un petit peu lui aussi dans la capitale allemande, avait rejoint ce cercle des poètes russes. Et donc, il faisait des soirées où il déclamait de la poésie, où il faisait des petites performances théâtrales, enfin voilà. Et puis, tous les deux se sont retrouvés à Paris en 1933. Elle, parce qu'elle était juive et qu'elle avait été licenciée tout simplement de son travail d'historienne, parce qu'elle était juive. Hein, ça a été très, très brutal et immédiat en 1933 en Allemagne pour la plupart des personnes juives. Et donc, elle s'est retrouvée, elle, à Paris. Et Boris Vildé, lui, a décidé spontanément de fuir aussi la capitale allemande. Et lui aussi s'est retrouvé à Paris en 1933. Et ils se sont, bien sûr, retrouvés aussi à Paris. Et ils ont continué à se fréquenter tout à fait régulièrement. Parce que c'était aussi des belles années, hein, dans les années 30 à Paris, même s'il y avait aussi la montée de l'extrême droite, il y avait beaucoup d'effervescence, il y avait aussi toute cette arrivée d'émigrés des pays de l'Est et de l'Allemagne qui stimulait la vie culturelle parisienne. Et donc, et Raïssa Bloch, elle s'est investie elle aussi dans les réseaux de résistance, mais plus réseaux de résistance pour l'aide aux enfants juifs, donc de l'OSE en France. Et malheureusement, elle a été arrêtée par la police lors d'un transfert d'enfants vers la Suisse. et refoulé, en fait, arrêté par la police suisse, refoulé et livré aux Allemands, en fait, et déporté. Et elle est morte en déportation. Donc, c'est aussi un destin, malheureusement, assez tragique.
Okay. Hein,
et qui rejoint celui de Boris Vildé.
Et alors, bon, on va pas trop s'étaler là-dessus, mais bon, je ne sais pas si tu as un intérêt particulier pour la Russie. Bon, j'imagine que maintenant, avec le contexte actuel aussi, c'est peut-être plus difficile de le maintenir.
C'est compliqué ouais. Parce que, comme tout le monde le sait, Vladimir Poutine ne représente pas tous les Russes, mm-hmm. et que la Russie est un grand pays avec beaucoup, beaucoup de sensibilités différentes, et la population russe est soumise à une intense propagande actuellement, mais parmi celles-ci, beaucoup ont manifesté leur soutien pour l'Ukraine, et même si de cœur, notre soutien va vers les Ukrainiens et vers l'Ukraine, puisque ce sont eux qui sont attaqués, mm-hmm. donc mais il n'empêche que ça ne, enfin voilà, il y a des Russes qui restent tout à fait estimables pour autant.
Ok. Alors écoute, on va continuer à parler encore d'un petit moment du spectacle. Hein. On a parlé un petit peu de recueillement. Tu as parlé de poésie, hein, avec Boris Vildé. On va enchaîner avec un tout petit extrait et parler d'un spectacle aussi qui aura lieu. Là, on est au samedi. Alors, d'abord, le dimanche, un petit peu de musique bolivienne pour illustrer l'activité du dimanche. Donc, c'est un tinku. C'est une sorte de danse qui est aussi une lutte qui existe en Bolivie, mais qui n'est pas vraiment pas du tout présente ici, hein. C'est pas comme la capoeira, qui sera d'ailleurs aussi représentative, mais qui est très connue ici en Europe, mais le tinku pas du tout. Donc voilà, ceux qui veulent découvrir le tinku bolivien, eh bien ce sera ce week-end, ce sera dimanche, juste avant la présentation du musée de la résistance. Donc on écoute un tout petit morceau de extrait de musique bolivienne, et puis on espère pouvoir avoir les gens de Bakushinta pour nous présenter leur spectacle, leur présenter leur... voilà. Écoute Alfredo Coca. Thank you.
suite. Hein.
Voilà, donc on écoutait une série de Winos de Alfredo Coca et Aymeric se précipite vers le studio. Je lui allume son micro et les voilà de retour.
Oui, Hubert. Oui, donc effectivement, hein, une série de Winos de Alfredo Coca. On était en Bolivie, tout ça pour faire le lien avec le spectacle de Tim Cook qui sera présenté. Eh bien, c'est pas un spectacle, là par contre c'est plutôt un atelier, donc c'est vraiment ouvert aux participants.
Parce je crois qu'on pourra danser.
Oui, je crois qu'on pourra danser, voilà. C'est une initiation au Tinku qui est donnée par Sartagnani Bolivia, donc, qui est un groupe bolivien bien implanté ici à Bruxelles depuis de nombreuses années. Et donc, voilà, une initiation à cette espèce de danse, entre danse et rituel, on va dire. Eh bien, c'est donc dimanche, entre 14 et 15 heures, à Anderlecht, dans l'espace César. Bon, on essaiera de mettre plus d'infos sur le site. Donc voilà, on a Georgine au bout du téléphone qui va nous présenter un autre spectacle, lui, qui aura aussi lieu dans le cadre de ce festival. Là, ce coup-ci, c'est samedi. Et c'est pour clôturer la journée du samedi. C'est un spectacle qui s'intitule « Chanter pour résister ». Donc on est avec Georgine au téléphone. Alors j'espère qu'elle nous entend. Tu nous entends, Georgine ?
Oui, 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 je vous entends très bien.
Super, alors bonsoir, on se connaît pas beaucoup, on vient de se rencontrer non. Par téléphone.
Oui.
Mais voilà, on aimerait bien ici, avec Agnès et Hubert, si c'est possible, savoir un petit peu plus sur ce spectacle qui va être proposé, donc qui s'appelle « Chanter pour résister » et par une association qui s'appelle Bakushinta. Oui. Donc samedi qui vient à 17h. Alors on a vu que ça durait... de 5 à 9 heures, donc ça fait 4 heures de spectacle, c'est vraiment ça ou bien
non, non, c'est 2 heures de spectacle, et puis on peut rester là, on a prévu, comme j'ai écrit, on peut manger, mais c'est payant, le spectacle lui c'est gratuit, donc et voir, partager un petit moment. Après le spectacle.
Quoi consiste, comment est né peut-être ce projet de spectacle ? Est-ce que ça fait longtemps que ça existe ? Pas très longtemps ? Qui en sont les acteurs principaux ? Et puis peut-être nous dire, qu'est-ce qui va être présenté pendant tout ce laps de temps ?
Voilà, en fait, si vous avez suivi. La solidarité d'Anderlecht avait lancé le projet qui a pour thème le folklore dans la résistance. Le folklore dans la résistance. Et nous, autour de ce projet, nous avons imaginé ce que nous appelons chanter pour résister. Et c'est une performance qui va regrouper plusieurs... on a des vidéos, on a ce qu'on appelle au Congo le Kassala, c'est une sorte de... un poème d'éloge que nous avons concocté, donc c'est Georges Dubois qui a écrit cet éloge.
À c'est vous-même
là. Oui, oui. Il y a été une grande résistance dans la partie Angola. Après, nous avons aussi des vidéos qui sont là et nous avons des parties chants, chantées et aussi des chansons de résistance qui seront lancées. Okay. Et nous travaillons justement, la personne qui sera sur la scène essentiellement, ce sera Ange Nawazadio pour chanter. Nous avons une reine Zinga aussi qui sera sur la scène pour le Kassala. Et on a aussi Chriso Kitenge avec lequel nous collaborons. Donc c'est vraiment une collaboration de 3 personnes pour présenter cette performance. Ah, j'ai oublié aussi, il y a Jérémy qui va s'occuper de ce qu'on appelle à l'origine de la capoeira. Que les gens, on parle plus de capoeira beaucoup de capoeira, mais plusieurs personnes ne savent pas, ne connaissent pas l'origine même de la capoeira. On parle du birimbau, c'est le nom au Brésil, mais le birimbau est arrivé justement avec ces gens qui ont amené ce qu'on appelle aujourd'hui la capoeira. Donc le birimbau a son nom dans nos pays et la capoeira aussi a son nom dans nos pays. Donc c'est autour de cette performance-là, comme je l'ai écrit, je vous ai fait parvenir le programme.
Tout à fait. Donc les liens, alors là vous nous parlez des liens entre la capoeira connue au Brésil et ce qui existe, ce qui a existé,
qui existe. Ce qu'il y a vraiment et qui est à l'origine même de ce qui devient la capoeira.
Et là, alors, on est plutôt en Afrique centrale, alors,
oui,
d'après ce que je comprends.
Oui, en Afrique centrale, oui.
Entre le
Angola,
Congo, l'Angola.
Congo, oui, mm-hmm. oui. Bon, il y a le royaume Congo qui s'étendait sur l'actuel Angola, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, donc. Et il y a d'autres peuples qui connaissent plus ou moins aussi.
Ok. Bon, ben, en tout cas, on vous souhaite...
Mais que les gens viennent, hein, parce qu'on ne va pas tout leur raconter non plus. J'ai déjà trop dit. Mais qu'ils viennent découvrir ce qu'on leur a concocté.
Tout à fait, tout à fait. À tous les niveaux, donc. Au niveau visuel, sonore, mais aussi culinaire.
On va les faire voyager. Comment ?
Mais aussi culinaire.
Oui, venez découvrir le côté culinaire, parce que les gens ne connaissent, quand on leur parle du Congo, pour eux, c'est culinaire, c'est uniquement poulet à la moimbe. Mais bon, c'est une petite restauration aussi, hein, parce que
voilà.
Ce n'est pas vraiment des plats typiques non plus.
Ok.
Mais qu'on vienne découvrir l'instant magique.
Parfait. Bah écoutez, ouais. Merci beaucoup Georgine et bonne chance en tout cas pour votre spectacle,
merci
bonne réussite.
Beaucoup, merci de nous avoir donné cette occasion.
Avec plaisir.
D'être là à Radio Panique.
Et bah peut-être à une prochaine.
Ok, bonne soirée.
Allez, bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Merci, enfin.
Le programme, le son qu'on écoute, qui en fait fait partie du. Qui fera partie du programme ce petit spectacle intitulé Chanter pour résister. Voilà, on va écouter ça pour se quitter. Merci beaucoup Agnès d'être venue ce soir.
Merci à Radio Panique.
Et longue vie au Musée de la Résistance.
Ah bah j'espère, hein.
Merci aussi Hubert pour la technique. Bah on vous retrouve dans Djibouti la semaine prochaine à 18h. Et n'oubliez pas, nos émissions se retrouvent podcastées sur notre site www.djiboutique.be. Voilà, bonne soirée à tous sur Radio Panique. Il y a des gens qui attendent pour nous suivre. Donc regardez sur Internet si vous voulez savoir le nom de l'émission suivante. Voilà, bonne soirée à tous.
C'est Clip Radio.
Ah voilà, Clip Radio. Parfait.
Et il y a du monde. Il y a du monde.
Bonne soirée à tous.
Zampevel qua bagnata, qui zampevel qua bagnata, qui zampevel qua bagnata, qui we don't need a
eschatological plane to save this world. We have Lord. We have Lord. We have Lord. Oh, oh, oh. We don't need all the angel book, the seven seals. The people said that the songs reveals that the world needs salvation nowadays. We have love. We have love. We have love.